Alors, là-dessus, on salue Michel Poitevin, professeur en sciences économiques à l'Université de Montréal. Ça va bien, Michel?
Ça va bien, Hélène. Bonjour.
Bonjour. Alors, c'est la une de la presse qui vous a attiré, qui a attiré votre attention ce matin parmi vos sujets. La presse, donc, qui publie un reportage sur les dons de charité en provenance du Canada.
Oui, un reportage intéressant, là, signé par Francis Vaille et Jean-Hugues Roy. Ils ont analysé les données de l'Agence de revenus du Canada sur les dons de charité dans les cinq années se terminant en 2023, donc de 2019 à 2023. Puis peut-être juste pour une petite mise en contexte, un don de charité, ça mène à une déduction fiscale. Quand on fait son rapport d'impôt, si on a des dons de charité donnés à un organisme homologué, là, valide, on a le droit à une déduction fiscale. Par exemple, si on donne 100 $ mais la déduction, on réduit notre revenu imposable de 100 $ puis la déduction peut être n'importe où entre 10, 20, 30 ou même jusqu'à 50 $ selon le revenu du donateur. Plus le revenu est élevé, bien plus le taux d'imposition est élevé et plus la ristourne fiscale est élevée également. Donc, le gouvernement finance indirectement le don à hauteur de, disons, entre 30 et 50 du montant donné. Alors, qu'est-ce qu'on a dans notre dossier? Mais en 2019 et 2023, il y a eu plus de 15 milliards de dons faits au Canada qui ont été envoyés à l'étranger. Et donc, ce sont des fondations canadiennes qui versent de l'argent à l'étranger pour remplir différentes missions selon l'organisme donateur ou expéditeur du Canada. Sur ces 15 milliards, il y en a 12% pour l'avancement de la religion, donc à peu près entre 1,8 puis 1,9 milliards de dollars qui sont donnés à l'étranger.
L'avancement de la religion.
Oui, c'est un titre. Il y a différentes catégories. Là, il y en a, ça pourrait être pour aider des personnes démunies. Quand on regarde dans l'article, il y a différentes catégories. Puis il y en a une, c'est l'avancement de la religion. C'est un peu de ça dont je voulais parler aujourd'hui. Mais juste avant, on a 400... Sur les 1,8, 1,9 milliards là, qui sont pour l'avancement de la religion, il y en a 434 millions qui vont aux États-Unis. Souvent des groupes conservateurs de la droite religieuse là, qui appuient, par exemple, le président Trump.
Alors, c'est ce qu'on appelle l'avancement de la religion.
Oui, c'est ça. Okay. Donc, on peut penser, les donateurs, ils peuvent faire ce qu'ils veulent avec leur argent, et puis c'est bien correct. Mais l'histoire est un peu plus compliquée parce que c'est pas seulement leur argent. Encore une fois, la déduction fiscale donne un rabais au donateur. Mm-hmm. Donc, si tu fais un don de 100 $ possiblement que tu vas avoir une ristourne de 50 $ du gouvernement, mais le 100 $ lui, se rend quand même à l'organisme qui fait la promotion ou l'avancement de la religion. Mais toi, tu as reçu 50 $ Ça veut dire que sur le 100 $ il y a un 50 $ qui est payé par les impôts de tous les contribuables, qui est financé par le gouvernement. Il y en a beaucoup qui voient ça comme un détournement de fonds publics à une cause, entre guillemets, charitable, mais qui est privée, là, qui est chère à des donateurs particuliers. Les auteurs de notre dossier dans la presse, que je vous invite à lire, là, parce que je n'ai pas le temps de donner tout ce qu'il y a dedans, là, mais j'en donne un petit avant-goût, ils estiment que sur les 1,8 milliards, il y a environ 700 millions qui provient de fonds publics. Puis là, la question se pose, est-ce que les contribuables canadiens acceptent que ces dons religieux soient financés à hauteur d'environ 40% par l'État? On se rappelle qu'au Canada, on a une séparation entre la religion et l'État, mais là, on dirait que cette séparation-là ne tient pas dans le cadre des dons religieux. J'aimerais rappeler, puis je cite l'article, en décembre 2024, il y a un comité permanent des finances fédérales qui a même inscrit dans sa liste de recommandations l'idée de couper les avantages fiscaux liés aux dons religieux, non seulement pour les dons transférés à l'étranger, mais aussi pour ceux qui restent au Canada.
Mm-hmm. Oui,
cette recommandation-là mettrait fin à un avantage fiscal qui remonte au 17e siècle au Canada.
Donc, c'est pas d'hier.
C'est ça. Donc, il y a une sérieuse réflexion qui s'impose ici quand on regarde les montants en jeu. Mm-hmm. Bon, c'est sûr, c'est sur 5 ans, mais c'est quand même des montants importants.
Puis ça pose, ça pose des questions intéressantes, là, parce que la personne qui donne a le droit de donner à qui elle veut, mais sauf que si le gouvernement s'implique dans les déductions fiscales, ce sont d'autres personnes qui sont impliquées qui ne sont pas nécessairement en accord avec ce genre de dons.
Exactement. Puis dans le cadre des dons religieux, là, mais la question se pose pour n'importe quelle cause, mais dans le cadre des dons religieux, comme il y a une séparation au Canada qu'on valorise beaucoup entre la religion et l'État, bien là, indirectement, l'État favorise l'avancement des religions, non seulement au Canada, mais également à l'étranger. Puis on n'est peut-être pas comme contribuable, comme vous le dites, d'accord avec toutes les causes qui sont mises de l'avant par les groupes qui bénéficient de ces dons, en guillemets, slash, je dirais, subventions.
Mm-hmm.
Donc, je vous invite à lire ce dossier. C'est un dossier qui est très intéressant, puis je pense qu'il soulève des questions importantes. Là.
Oui, c'est dans la presse d'aujourd'hui. Et on apprend aujourd'hui aussi que c'est Statistique Canada qui publiait ce matin de nouveaux chiffres d'inflation.
Oui, au Canada, une bonne nouvelle, je dirais, entre guillemets, l'inflation a reculé. En mars, on avait une inflation sur une base annuelle au Canada de 2,3 % qui est proche de la fourchette, là, qui est dans la fourchette de 2 à 2,5 % là, que vise la Banque du Canada. Puis là, en avril, l'inflation est à 1,7 %, donc elle aurait baissé de 0,6 %, ce qui semble une bonne nouvelle. Mais quand on regarde dans le détail, on creuse un peu, on se rend compte que le gros de la baisse de l'inflation est dû à l'abolition de la taxe carbone à laquelle M. Carney avait mis fin lorsqu'il est devenu premier ministre, c'est ça, même avant les élections. Là. Donc, on parle des chiffres d'avril. Et puis ça a aidé le prix, l'indice des prix à l'énergie au Canada de chuter de 12,7 %. Puis l'indice des prix de l'énergie est inclus dans l'indice des prix généraux, là. Et donc ça a favorisé une inflation faible à 1,7 %. Par contre, si on exclut l'énergie, on se rend compte que tous les autres prix ont augmenté de 2,9 %. Puis, notamment pour les aliments, ils ont augmenté de 3,8 %, alors qu'en mars, ils avaient augmenté de 3,2. Donc, la bataille contre l'inflation n'est peut-être pas gagnée complètement. Là, il y a eu cette abolition de la taxe carbone qui a influencé les chiffres du mois d'avril.
Sauf au Québec.
Puis, oui, mais la taxe carbone, justement, ça renforce l'argument. Au Québec, c'est la seule province avec une hausse de l'inflation d'avril par rapport à mars. Donc, on est à 2,2 alors qu'on est à 1,9. On se rappellera quand même en mars, le Canada est à 2,3 %, au Québec à 1,9, mais là, on a augmenté à 2,2. Mais au Québec, l'abolition de la taxe carbone n'a pas affecté parce que nous, on a un marché du carbone qui n'a pas été aboli. Donc, la taxe carbone n'a eu aucun effet au Québec. Puis on se rend compte que l'inflation a augmenté légèrement. Donc, il va falloir suivre de près. Les tarifs jouent certainement un rôle là, dans un peu la hausse de l'inflation. Puis, de l'autre côté, il y a peut-être un ralentissement de l'économie. Là. C'est pas rare qu'on lit dans les nouvelles qu'une telle usine a fermé ou ralenti son activité ou des mises à pied temporaires. Ça va être intéressant de voir ce que la Banque du Canada va faire. La prochaine décision de taux d'intérêt est le 4 juin. En ce moment, les taux d'intérêt au Canada sont à 2,75 %. Bien, le taux directeur, là, les taux d'intérêt, il y en a beaucoup, mais le taux directeur. Et puis, prochaine décision le 4 juin. On va sûrement avoir l'occasion d'en parler.
Bien oui. Et en terminant, Michel, en quelques secondes, les ministres des Finances du G7 se réunissent à Banff.
Oui, il y a un sommet du G7 qui va avoir lieu à Kananaskis, en Alberta, du 15 au 17 juin. Puis ça, ce sont les dirigeants des pays du G7. Il y a toujours des rencontres préliminaires des ministres des Finances quelques semaines avant, donc du 20 au 22 mai, là, donc aujourd'hui à jeudi. Rapidement, le G7, c'est le Canada, États-Unis, France, Allemagne, Japon, Italie, Royaume-Uni. Donc, les ministres des Finances et les hauts dirigeants des banques centrales de ces pays participent également, ainsi que le commissaire à l'économie de l'Union européenne puis le dirigeant de la Banque centrale européenne qui sont là. Donc, notre nouveau ministre des Finances, François-Philippe Champagne, va assurer la présidence de cette rencontre. On mentionne que probablement qu'il va bénéficier là, un peu par en arrière des conseils de M. Carney, qui, lui, à titre de dirigeant d'une banque centrale au Canada et au Royaume-Uni, a souvent participé à ces réunions. On va discuter évidemment d'économie mondiale, des tarifs et différents autres sujets.
Alors, un grand merci, Michel, pour cette super chronique économique. Et on va se retrouver, je l'espère bien, la semaine prochaine.
Oui, à la semaine prochaine.